Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Mise à mal.
La flamme contre la flemme.
Aujourd'hui, la météo, c'est...
Ouais, c'est abusé. Il a neigé la semaine.
Je ne comprends pas le temps, quoi. Après, on dit bien avril, ne te découvre pas d'un fil, mais bon.
Ouais, mais personne n'a dit que ça serait l'apocalypse en avril.
Oui.
Moi, j'ai vu les hordes de sauterelles arriver.
C'est ça. Oh, avril, il pleut du sang, fait chier.
Ouais. Salut Théo.
Salut Flo.
Et bonjour les applaudisseurs.
Bonjour à tous.
Aujourd'hui, on va parler de la séduction, mais de la séduction dans le couple. C'est très spécifique. On avait fait un épisode sur la séduction hors couple dans l'épisode 1. C'est fini maintenant, c'est du passé. Donc on va...
L'épisode 1, vous vous souvenez? Ah, on avait 5 ans à l'époque.
Et pour traiter de ce sujet particulier, on a une invitée d'un tout nouvel acabit.
D'une toute nouvelle trempe, j'ai envie de dire.
Aujourd'hui, on reçoit Anna. Salut Anna.
Salut à tous les deux.
Donc Anna, on va te laisser te présenter, mais on peut te retrouver notamment sur Instagram, sur le compte Relations Textuelles. Voilà, et c'est ce qui est rigolo, c'est qu'on t'a connu sur Instagram. Voilà, donc je te laisse un peu présenter ton activité et ton actu.
Oui, alors moi j'ai 31 ans, bientôt 32 ans, donc un fossile. enfin, du moins, c'est comme ça que je me sens. Que
tellement
je
extrême.
Voilà, alors moi, je suis passionnée par les relations amoureuses et par la psychologie des êtres humains dans les relations amoureuses, et notamment les applications de rencontres, parce que je trouve qu'elles ont vraiment bouleversé les rapports entre hommes et femmes et tout ce qui est relatif au couple. Donc j'ai effectivement un compte Instagram Relations Textuelles qui parle de ça, et j'ai aussi un blog, et là, je sors un roman, mon premier roman, donc... Je suis hyper contente, hyper fière, voilà, de vous le présenter. Il s'appelle Factice et ça parle de Nina, en fait, qui a 27 ans et qui utilise les applis à outrance et qui critique un petit peu le fonctionnement de ces applis et finalement le plein de choses en fait qui vont autour, à savoir la pression sociale de à partir de 30 ans, bah tu dois te caser, le fait de d'être célibataire, elle a l'impression qu'elle est un vilain petit canard parmi tous ses amis qui pompent des mioches et qui rentre à 11h le samedi soir. Donc voilà, ça raconte un petit peu tout ça, comment on se sent quand on cherche l'amour sur les apps, quand on est la seule célibataire de son groupe, et bah vous découvrirez peut-être ça si vous achetez mon livre, voilà, aider une écrivaine dans la précarité.
Voilà, et donc on peut donner ton nom entier qui ouais. est Anna Anthony, et c'est donc ça. Tu sors Factice, il sort quand? Et tout bientôt en fait.
Il sort le 14 avril
et
en librairie.
Du coup, quand on diffusera ce podcast, il est déjà en librairie, donc allez-y. Moi je voudrais juste te remercier parce que tu nous as amené un exemplaire, donc je suis ravi, on pourra en parler.
Exactement, on va débriefer.
Voilà, on pourra en parler et sous ton contrôle poster quelques extraits pour donner
plaisir.
Envie. Et c'est vrai qu'on discutait des applis, alors ça sera pas le sujet de l'émission.
Oui, grave.
Arrêtez hein, OK. Mais on discutait des applis et c'est un sujet qui est rentré dans notre quotidien, mais sur lequel on a très peu de recul et sur lequel on a des expériences très très différentes. Donc voilà, merci d'en parler et on partage cette passion
des relations sociales, exactement.
Exactement, Théo, tu complètes ma phrase. Tu m'as coupé la parole.
On termine les bougeoires de l'autre.
Les nageoires.
On termine les nageoires.
Ils font des mamours.
Donc oui, on partage cette même passion des relations sociales et surtout ce même constat de putain, qu'est-ce que c'est compliqué et c'est pas parce qu'on vieillit.
Putain,
qu'est-ce que c'est compliqué.
Orelsan.
Arrêtez parce que j'étais chez Orelsan il y a quelques jours.
Quoi
Attends,
mais parce que nous, on est des grands fans.
Sérieusement?
J'ai fait un rap à Flo pour son anniversaire l'année dernière.
Ça s'appelait
Florelsan.
Waouh, et ben j'étais chez lui il y a quelques jours.
Mais tu étais chez lui et il était là ou tu le cambriolais?
Non, il était là.
Mais attends, quel est le contexte?
Ben oui, dis-nous.
Mais je fais du copywriting pour sa marque de sable d'ailleurs. Au passage,
non,
on va faire
bien.
un peu de pub pour eux. Donc la marque de sable s'appelle Avenier et c'est la marque de Orelsan et Sébastien, donc un de ses potes. Donc voilà dans quel cadre j'étais chez Orelsan il y a quelques jours.
On n'a jamais été aussi proche d'un sponsor d'Orelsan.
Alors juste, nous on adore les habits et Orelsan.
Et moi ce que j'aime beaucoup dans la musique c'est le rap. déjà.
J'aime bien les chansons de rap. qui connaît vraiment rien.
Et une fois Gringe a répondu à un de nos messages, donc wow.
Donc c'est notre pote un peu en fait, juste
et les amis de nos amis, enfin voilà,
voilà, bon, donc envoyez tout ce que vous voulez. Non mais alors je suis waouh. Comme quoi, donc à 1 degré, on connaît Aurel San,
ouais,
maintenant.
Ça, ouais.
Merci Anna, je peux aller je peux mourir en fait, ça y est, je peux mourir.
Ah bah voilà, okay. Maintenant.
Bon bah salut. T'as les claquer des doigts.
Et aujourd'hui de quoi on va parler?
Bah j'en ai déjà parlé,
plus,
tu m'écoutes déjà plus.
Et puis non mais c'est surtout que tu t'as lâché la bombe d'Aurel San.
Oui, c'est vrai que là ça ouais, ça reset.
C'est ça. Donc on va parler dans cet épisode d'Aurel San, pourquoi on aime tous beaucoup Aurel San.
Aurel San et les applis de rencontre. et on alors on va parler donc de la séduction dans le couple et surtout comment en fait garder un peu la flamme. Il y a un peu ce mythe, alors quel est le cliché qu'on essaie de mettre à mal, c'est que une fois qu'on est en couple, tout va rouler et qu'il n'y a rien besoin de faire pour maintenir la passion.
Exactement, et que la séduction c'est en amont de la mise en couple.
Exactement, et il y a aussi un autre cliché complémentaire, c'est que les mecs s'en foutent un peu de laisser la passion, genre qu'on fait pas d'efforts en fait pour maintenir la passion dans un couple. Il y a un peu ce cliché là que ce serait les femmes qui seraient plus romantiques et plus à même de faire des efforts.
Ah oui.
Voyons voir si c'est vrai. Bah, ce que je vous propose, c'est un peu de partir sur un tour d'anecdotes et on va rebondir. Et peut-être Anna, on va te laisser l'honneur du coup de parle-nous un peu de bah toi de ta vision et peut-être d'expériences qui sont mal passées ou mieux passées
okay.
Sur ce sujet-là.
Alors déjà oui, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, c'est que je pense que les gens quand on parle de séduction, ils pensent toujours à la séduction avant le couple, c'est-à-dire comment vulgairement comment tu vas réussir à choper quelqu'un. Et ensuite bah comme si par magie la séduction disparaît, t'as plus besoin de faire d'efforts, t'as plus besoin de rien faire. Et donc la séduction c'est vraiment quelque chose qui me passionne, notamment la question de quand t'es en couple, qu'est-ce qui fait que tu continues à aimer l'autre? Et qu'est-ce qui fait que tant de couples, en fait, finalement, bah, c'est filoche au bout d'un moment. Et alors moi, du coup, j'ai eu un premier copain à 22 ans, je crois. Enfin, premier copain, quand je dis premier copain, c'est première relation longue. Et en fait, moi, je me disais, bah, à partir du moment où on est ensemble, finalement, bah, on s'aime, tout allait très vite, on a emménagé ensemble au bout de 3-4 mois. Et en fait, à partir de là, je me suis dit, bah, je suis comme je suis. Et bah finalement chacun enfin on est comme on est l'un avec l'autre et puis bah l'amour il va toujours être là quoi finalement parce que on est ensemble et parce que le quotidien entre guillemets se passe bien. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'au bout de 3 ans finalement bah il m'a quitté du jour au lendemain voilà pour une autre. Ah c'est dur. Et en fait il m'a quitté et là c'est là où je me suis dit j'ai commencé à comprendre plein de choses en fait et notamment le fait que j'ai durant toute cette relation en fait j'ai été acquise. Mais vraiment acquise, c'est-à-dire qu'il y avait, je passais tout mon temps avec lui, j'allais pas en week-end avec des copines. Enfin, en fait, je m'étais un peu oubliée, moi, j'avais oublié ma propre vie. Et vraiment, c'était, on se disait je t'aime 45 fois par jour, donc du coup, ça perd un peu de sa valeur. Et on faisait plus tellement d'efforts l'un l'autre, en fait. Et finalement, moi, je me suis fait larguer, mais finalement, lui non plus ne faisait plus d'efforts. Et quand je dis pas d'efforts, c'était, bon, j'en sais rien, mais peut-être pas que je prenais moins soin de moi, mais quelque part, il y avait ce truc en mode, bah, le postulat, c'est il m'aime, je l'aime, et en fait, ça peut pas changer, c'est immuable, alors que c'était pas vrai. Et bon, je vais donner des exemples un peu hardcore, mais je sais pas, par exemple, il chiait la porte ouverte. Et
ah punaise,
j'allais faire une blague, moi, mais...
Non, moi, je l'ai noté, c'est un vrai sujet pour moi, je veux pas qu'on creuse direct dès les premières minutes du podcast sur le fait de chier la porte ouverte.
Mais on va en parler après.
Mais on va quand même le faire. Oui. Pourquoi? Pourquoi?
Ouais, moi je suis d'accord. Dans quel monde? Quand je suis tout seul, je ferme la porte, tu vois. Enfin.
Mais attendez, c'est pas tout. Donc pour vous donner des exemples.
C'est le niveau 1, ça.
Voilà, il chie la porte ouverte en faisant des bruits d'animaux.
Non, mais c'est là où tu vois qu'en fait t'as perdu ce côté séduction, c'est il chie la porte ouverte. Bon, désolé, c'est hyper hardcore, mais oui, ça m'arrive de péter et on pétait l'un devant l'autre. Et tous ces trucs là, en fait, je trouvais. Je pétais des paillettes, hein.
Bah, bien sûr.
Mais en fait, du coup, je trouve que c'est tous ces trucs-là où, par exemple, je sais plus ce que je faisais, bah, j'ai pas de filtre, hein, moi, mais, je m'épilais la moustache devant lui, et voilà, il me voyait m'épiler la moustache, ce qui est pas du tout, c'est pas du tout séduisant, soyons honnêtes. Et en fait, je trouve que c'est tous ces petits trucs-là, en fait, être hyper à son aise avec l'autre et finalement ne passer tout son temps ensemble et ne plus trop faire d'efforts et ne pas vouloir être éloigné de l'autre parce que bah on s'aime et on peut pas rester 2 minutes sans être collé l'un à l'autre et je peux pas partir en week-end avec des copines parce qu'il va trop me manquer, tu comprends. Enfin, et bah tout ça pour moi, ça a vraiment cassé toute la séduction entre nous et ça a fait que je suis devenue acquise Et finalement, bah, j'ai perdu, il a perdu son attrait plutôt pour moi, en fait.
Mais t'as tout à fait raison. Moi, ce que tu racontes, ça a fait vachement écho à ce que j'ai, mon analyse de mes propres relations. Il y a ce côté, quand tu désires quelqu'un, c'est tu désires aussi la fraîcheur d'une nouveauté et d'une personne qui ne t'appartient pas. Et c'est ce que tu vas aller chercher dans la séduction, on va dire, avant le couple.
Tout à fait.
Et une fois qu'il y a cette espèce de titre, le couple, qui a été mis dessus, on a tendance à se dire, ah, ok, je l'ai eu, et voilà. Et en fait, c'est un cercle vicieux où on pense pouvoir se reposer sur ses lauriers. Et c'est là où on va rentrer dans un cercle où petit à petit, tu vas commencer à moins regarder la personne et surtout à te dire, bon bah, c'est pas grave si je la désire pas aujourd'hui, elle sera toujours là demain, par exemple.
Exactement.
Et dans les anecdotes que tu racontes, il y a quelque chose qui me frappe et que j'ai connu aussi, c'est ce côté désacralisation des rapports quotidiens. Alors tu parles de péter, de t'épiler la moustache, mais ça c'est des choses ultra communes, mais tu vois, tu disais, on se disait je t'aime 45 fois par jour, et je reconnais vraiment ça, moi je faisais pareil dans une ancienne relation. Et c'est vrai que, bon, en fait, ça perd de sa valeur. Et aujourd'hui, j'essaye de tempérer et de le dire moins souvent. Je vois bien que ça frustre un peu ma copine. Mais c'est cette frustration aussi qui permet d'entretenir les trucs, je pense.
Tout à fait.
Et dans la même lignée du « je t'aime », moi, je sais que dans une relation passée, j'avais tendance à avoir trop désacralisé la nudité. Où on se baladait beaucoup à poil, ou enfin, moi je dors à poil, mais souvent on se voyait nu, mais dans un contexte non sexuel. Et petit à petit, ça, jour après jour, ça effritait vachement le désir. Et ça, c'était dur, quoi. La nudité dans le couple, quand elle se banalise trop, c'est en fait, t'es tellement habitué à la vue du corps de l'autre qu'il y a plus aucune surprise, il y a plus aucune découverte, il y a même plus de désir, quoi.
Ouais, tout à
mais
fait.
En fait, il y a deux composantes dans ce que vous dites. Il y a le côté acquis, c'est-à-dire c'est bon, j'ai pas besoin de faire plus. Et en fait, ça, c'est la recette pour que la seule direction qui se profile, ça soit la décadence quelque part. Tu peux que diminuer, en fait, à partir du moment où t'as atteint un plateau, soit tu continues de faire un effort pour maintenir le niveau à minima, soit ça diminue parce que de fait, les choses déclinent. Il y a ce côté acquis, mais aussi la perte de l'altérité. Moi, c'est quelque chose qui me glace beaucoup dans mes rapports. J'ai toujours très peur des relations fusionnelles ou des relations où on ne voit plus la distance entre enfin ce qui me fait moi et ce qui fait toi. Et cette perte de l'altérité, le fait de s'habituer au corps de l'autre, Théo, dans ce que tu disais dans la nudité, ou de s'habituer au corps fonctionnel de l'autre, dans ce que tu disais Anna, bon, péter, aller aux toilettes et tout, oui on le fait, mais c'est pas la peine d'imposer ces trucs fonctionnels, enfin moi je le fais pas avec des potes, je vois pas pourquoi je le ferais avec ma meuf.
Exactement.
Et juste petit passage pop culture, dans New Girl il y a une scène où il y a Nick qui ne veut pas se changer ses vêtements devant Jess. Et elle lui dit, mais pourquoi? On s'est déjà vu nu ensemble des centaines de fois et tout. Il me dit, mais non, mais parce que quand on change ses vêtements, on est tout plié, bizarre, et c'est pas mon corps normal, et je veux pas que tu me vois comme ça. Et ben, moi, je fonctionne exactement comme ça. Je vais pas montrer un moment fonctionnel de mon corps. Pas parce que j'ai peur qu'on pense moins que moi, mais juste parce que c'est pas la peine, en fait, de tout partager et de gommer l'altérité et l'exceptionnalité de ce que c'est que d'être ensemble.
Mais du coup, voilà, ça m'a fait penser à certaines choses. C'est par exemple avec cet ex, du coup, avec qui je suis restée 3 ans et avec lequel on était en fusion.
Tu peux lui trouver un petit nom. Bon, on l'a peu fait dans la saison 2, donc du coup...
C'est vrai.
Un surnom, on va l'appeler Daniel.
Okay, ça, c'est mal, un autre mal. Prénom, ça. Mais ok.
Oui,
d'accord, ok.
Ce serait super drôle que tous les surnoms soient des autres prénoms. Genre, toi, on pourrait te surnommer Pierre,
Christophe.
C'est pas possible de faire un surnom. Il a un prénom trop court pour pouvoir faire un surnom. Voilà, pour m'expliquer.
Ok.
Ok, Léo.
Tom.
Bob.
Et du coup.
juste un H.
Ok, pardon. Pierre.
Et du coup, avec lui, par exemple, je me rendais compte aussi, c'est quelque chose d'un peu bête, mais que par exemple, mes sous-vêtements, bah, ça pouvait m'arriver. Du coup, au début, on fait toujours ça, on met des super beaux sous-vêtements avec quelqu'un qu'on veut séduire. Et avec lui, au final, bah, je mettais plus que des petites culottes trouées, moches, ou toutes, enfin. Je dis pas qu'il faut toujours porter quelque chose d'inconfortable pour séduire son mec, parce qu'il y a une nuance. Moi, je porte plus de trucs inconfortables. Mais par contre, tu peux avoir des jolis sous-vêtements qui mettent ton corps en valeur et pas une vieille culotte toute trouée où les fils partent à moitié. Et du coup, c'est dans plein de petits détails, en fait, finalement. Et d'ailleurs, on était vraiment en fusion. Donc, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure avec l'altérité. C'est-à-dire que maintenant, je déteste ça et je le ferai plus jamais. Mais c'était tout le temps, on faisait tout à deux. Si on allait à un dîner, on y allait ensemble et on était devenus on. ou nous et ouais. plus je. Et ça, aujourd'hui, je bannis, mais complètement. Enfin, on en reparlera peut-être après. Mais du coup, voilà, c'est ce que tu disais, c'est que tout est dans des détails, en fait. Par exemple, aujourd'hui, dans ma relation actuelle, je sais pas, moi, bon, désolé, ça va encore être des trucs hyper, mais je dois mettre un protège slip ou une serviette parce que j'ai mes règles, bah, je vais pas le faire devant mon mec parce que il a pas besoin de savoir ça, en fait, il a pas besoin de voir ça, et du coup, on va toujours dire, ah, vas-y, s'il te plaît, tu peux te tourner, ou s'il te plaît, tu peux fermer la porte. Et c'est ça que je trouve, en fait, qui permet de conserver, en fait, la séduction et de ne pas désacraliser l'autre en le voyant qui pète, qui met ses protèges slips devant toi, qu'il a une culotte trouée. Mmh. Et je dis ça, mais c'est pareil pour le mec. Hein. Un mec, pour moi, qui a des caleçons tout dégueulasses, tout troués, bah non, ça sera... Enfin, c'est no-go, quoi.
Ouais, faut rester un peu pudique, en fait, et réapprendre à l'être, parce que tu vois, moi, je me retrouve dans le témoignage du côté hyper fusionnel. Et ce que je dis souvent à propos de cette relation qui avait duré assez longtemps, c'est que pendant des années, tu grandis...
Démona ?
Oui.
Marguerite ?
Ah oui, c'est vrai que c'est Marguerite maintenant. Grand bien lui fasse. C'est que tu grandis à deux, mais en fait, tu te laisses toi en tant qu'individu sur le côté.
Oui.
Et quand la relation se finit, t'as un gap à combler de...
C'est ça, bah tu n'es plus rien en fait. Enfin, sans
exactement, t'es une sombre merde. Ouais,
hein. Une masse qui pète. C'est juste ça que t'as appris dans ta relation.
Qui pète et qui pleure.
Qui pète et qui pleure, le nouveau roman de
Houellebecq. et je reviens à la culotte trouée, parce que alors moi, il y a une théorie. Et...
C'est où est le trou?
Non.
Ok, d'accord.
Et parce que toutes les meufs avec qui j'ai été ont ce que j'appelle la fringue Joker. La fringue Joker, c'est une fringue qui est très confortable, mais qui a l'opposé du sex appeal. Et franchement, j'ai vu des t-shirts Snoopy, des culottes trouées, j'ai vu une combi lapin intégrale, mec. Avec une grande fermeture éclair.
Oui, c'est la soirée qu'on a fait la semaine dernière.
Non, non. Anna, elle voit exactement.
J'en ai eu une pendant toutes mes années fac, hein. Donc, je vois très bien et je la portais en soirée.
Qu'une meuf avec qui j'étais portait, mais au quotidien, tu vois, mais qui informe un truc, mais ça te fait.
Mais ça te tuait?
D'un point de vue, justement, désacraliser son couple, en fait, c'est à force de voir l'autre dans des trucs pas sexy.
Ah,
et moi, il y avait ce truc là où tu vois, tu dis avec mon mec je mettais des trucs moins sexy mais des trucs confort. Bah moi c'était un peu ça, où tu vois, quand tu vas avec ta meuf ou quand tu fréquentes une meuf depuis longtemps, genre en général elle rentre du travail, donc elle s'est fait toute belle et tout, mais elle est crevée, et son premier réflexe en rentrant, ça va être de se démaquiller et de se mettre en jogging, tu vois. Et du coup t'es en mode ah putain, tout le monde aujourd'hui l'a vu au top, et moi j'ai le contre-pied, quoi.
Ouais,
et c'est pas très grave, mais ce concept de fringue Joker, je pense que je vais le breveter, parce que on a tous des fringues Joker. Donc voilà, partagez-nous en commentaire vos fringues Joker. Est-ce que c'est un peu Snoopy?
Ouais, quel influenceur. Mais juste, t'as dit un truc intéressant qui était la répétition. C'est à force de l'avoir dans ces fringues Joker, dans ce jogging, dans ce truc lapin. Moi, le truc lapin, ça me fait kiffer, hein, perso.
Non, mais tu vois, mais pas ce que c'est, je te jure.
Mais si, j'en ai porté pendant des années. C'est génial. C'est un truc informe, mais c'est...
Informe, oui, mais du coup, c'est pas sexy. C'est ta meuf qui est dedans, hein.
Si, la meuf est nue dedans.
Oui, c'est ça.
Elle a la limite.
Je pense à elle nue, moi.
Et bah, même dans ces cas-là, c'est pas ouf.
Mais non, ça, c'est ça où je voulais dire, c'est à force. Parce que si tu la vois une fois nue dedans, tu peux avoir un délire. Par contre, si c'est juste, bah, en fait, elle rentre du taf et tout le soir,
c'est son pyjama, quoi. C'est un pyjama lapin.
J'adore que ça soit sa tenue du soir. Genre, tous les soirs, je suis en lapin.
Attends, son nom, sa tenue du matin, elle est au taf.
elle travaillait à Disney.
Et on n'escarpe pas.
c'est Cendrillon.
Il y a ce truc des fringues, mais ce que vous dites est très vrai, c'est que ça se tient dans les détails. Et moi, j'ai l'air d'être un psychopathe, et je peux comprendre que ça stresse certaines personnes, mais je les préviens. Puis il faut juste passer quelques moments avec moi pour comprendre que je suis assez maniaque sur certains trucs. Le diable est dans les détails, et c'est vraiment vrai, un truc con, mais moi je mets pas, je sais que ça peut-être aller loin pour certaines personnes, je ne me prépare pas devant quelqu'un, j'aime pas me brosser les dents ou mettre du déo devant quelqu'un, je vois pas en quoi c'est intéressant, en fait, de me voir faire ce genre de truc. Et même un autre truc, c'est que une douche sexy à deux, ça peut être cool, mais il faut qu'on soit un peu dans l'ambiance, c'est sexy, c'est un peu sexuel, on n'est pas obligé de ken comme des malades, mais il faut que ça soit un peu sexualisé. Par contre, prendre une douche fonctionnelle à deux, je vois en fait, juste laisse-moi me laver et oui, non, mais je sais que c'est débattable, hein.
Ouais.
Moi je crois que c'est ce truc là qui a fait que j'ai jamais perdu la flamme dans mes relations.
Moi je t'en perds un peu, parce que tu peux remplacer la sexualité par de la complicité sur la douche à deux. Moi j'adore prendre des douches à deux avec ma meuf, où on est assis, on kiffe sous la douche, où on discute, mais c'est intime, tu vois. Et tu peux remplacer la sexualité par de l'intimité. Par contre, tu vois, c'est marrant sur le sujet de la douche à deux. L'autre jour, ma meuf, elle m'a reproché que je me lavais les dents sous la douche.
Ah, oh, le rire de fragile.
Ah, il se lavait les dents sous la douche. et elle m'a reproché ça parce qu'elle trouve ça dégueulasse quand on crache sous la douche. enfin ce que je peux comprendre.
Et puis tu craches en urinant aussi, enfin c'est surtout
et
ça qui
est faire pipi dans la douche.
Ah bah, ah bah c'est ça. Vrai débat que je vais envoyer à la figure, c'est que c'est
tu lui as envoyé ton urine à la figure.
Non, je crache
le débat. Non, c'est parce que tu craches dans les cheveux à chaque fois. C'est pour ça qu'elle est pas oh, arrête le dentifrice dans les cheveux, on a déjà
dégueu.
Dit.
non et du coup moi je me lave les dents sous la douche, je l'ai toujours fait aussi longtemps que je m'en souvienne. Et elle fait pipi sous la douche quand elle est toute seule et moi ça m'arrive aussi mais moi, Marie, c'est à deux, non, on fait pas ça, tu vois. Et une fois, elle m'avait dit, mais j'avais si j'ai trop envie, là, je peux faire pipi. On était à deux sous la douche, je dis non, c'est mort, tu vois.
Ah ouais.
Et parce que là, mais elle l'a compris, elle l'a pas fait, et voilà, et ça, c'était une ancienne relation, faut que je le précise.
C'est trop tard. J'ai oublié de tempérer.
C'est peut-être ma meuf actuelle, peut-être pas. Le doute est permis.
C'est
la meuf de Schrödinger.
De quoi? Tu te souviens plus trop.
Oui, j'ai complètement oublié. Bah, wow, oui, c'est brouillon. En quelle année sommes-nous? Brigitte.
Pourquoi? Tu fais Macron?
Brigitte, mais... il a changé ma couche.
Brigitte, le Covid.
En tout cas, moi, je vais tempérer ce que tu dis, Flo. Parce que je pense qu'il y a un moment où quand tu vis avec quelqu'un, tu vois l'autre H24 et tu peux plus. Il y a certaines choses. Tu vas pas fermer la porte chaque fois que tu te changes. Et d'ailleurs, moi, si je peux préciser, c'est un moment très coquin, moi, quand... En fait, la salle de bain chez moi, donc je vis avec mon mec...
J'ai une balançoire.
Non. Non, déjà, la salle de bain, la baignoire est tellement grande qu'on peut prendre un bain à deux, voire même à trois.
Ok. Je suis libre la semaine
et
prochaine.
Et ensuite, en fait, moi, la salle de bain, la porte, si on la laisse ouverte, ça donne sur mon armoire et donc je me change devant. Et devant, en fait, quand mon mec prend sa douche, moi, j'ouvre la porte de la... Enfin, j'ouvre les armoires, plutôt, qui sont face à la salle de bain qui est derrière, et je me change. Donc, je mets mes sous-vêtements. Et mon mec, enfin, moi, clairement, je sais qu'il adore ça parce qu'il me mate en train de mettre mes sous-vêtements. Mmh. Et il est là en mode, oh là là, ses fesses. Oh là là, c'est la 7e merveille du monde. Ouh. Et du coup, finalement, bah, le fait de se changer l'un devant l'autre, bah, ça devient pas quelque chose de, entre guillemets, fonctionnel où, t'as pas à le faire devant l'autre parce que ça te dessert. Au contraire. Je trouve que c'est l'inverse. Et après, je trouve tout simplement qu'il y a un moment quand t'es dans le quotidien tout le temps avec quelqu'un, bah, il y a des choses, tu les fais machinalement, sans te soucier de savoir si le regard de l'autre, il est posé sur toi.
Mais je pense que c'est ça qui est important dans ce que tu dis, c'est que quand tu te changes, il y a une intention, à l'égard de l'autre, que quand tu commences à faire les choses pour toi, machinalement, il y a plus d'intention, tu l'incorpore à ce que je disais, la perte d'altérité, c'est genre, bon, bah, en fait, je me brosse les dents parce que je me brosse les dents. Mm-hmm. Et il y a plus cette distance-là. Alors, je dis pas qu'il faut tout contrôler dans son coup parce que tu deviens un fou mais je pense que c'est important de garder des intentions, à l'égard de l'autre sur des trucs qui peuvent sembler triviaux, quoi.
Oui, et justement, ce qui est beau, c'est qu'il y a des tips à trouver pour convertir un truc qui pourrait aller vers la désacralisation, comme prendre sa douche, la porte ouverte, et à convertir en un truc sexy à nouveau, quoi. Donc,
exactement.
Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'être sexy en chiant la porte ouverte? C'est la question que je voudrais poser aujourd'hui.
Bah oui, si t'es avec un scato, oui.
Ah, ouais, frisson.
Vous avez tous les deux emménagé avec vos partenaires, ce qui m'est jamais arrivé. Et donc, c'est aussi pour ça que moi, j'ai ce truc du sens du détail, de non, je me changerai pas ou je ferai pas ci et ça devant ma meuf. J'ai toujours refusé d'habiter avec quelqu'un justement pour ça. Donc, moi, j'ai une énorme angoisse de perdre la flamme. Est-ce que c'est une non-confiance en moi ou est-ce que c'est une intuition que bah c'est un peu le sens normal et qu'il va falloir travailler pour, ou est-ce que c'est d'autres raisons sur l'engagement? J'en sais rien, toutes les interprétations sont ouvertes. Il n'empêche que moi je ne peux pas habiter avec quelqu'un pour ces raisons-là très principalement, en fait. Je ne veux pas perdre l'altérité. Il y a un moment où il faut qu'elle retourne chez elle ou moi je retourne chez moi, qu'on refasse notre vie fonctionnelle et que quand on se retrouve, il y ait de nouveau un peu ce truc de séduction qui soit rechargé. C'est un peu comme l'endurance dans les jeux vidéo, quoi. Faut que ça remonte pour pouvoir de nouveau faire un sprint.
Je comprends, mais en même temps, quand tu t'habites avec quelqu'un, c'est pas non plus que tu cherches que l'altérité. Le bon équilibre, il est dans le fait d'avoir la dualité et l'altérité qui coexistent. Et c'est difficile de pas oublier l'altérité quand on est en mode couple. Mais par contre, tu peux pas emménager avec quelqu'un en te disant on sera toujours deux individus distincts. Il y a des moments où t'es à deux, tu partages un espace de vie à deux, c'est encore plus intime qu'une coloc parce qu'il y a t'as pas de pièce à toi par exemple quand tu vis à deux. Donc il y a quand même des concessions à faire. Mais enfin moi les premiers mois où j'avais habité avec une ex, ça, c'était vraiment cool, tu vois.
C'est aussi ça, c'est un tout autre sujet, donc je le pose là, mais on va pas le traiter. C'est que moi, je ne conçois pas le couple de manière monogame exclusif. Et donc, du coup, j'ai du mal aussi à envisager mon intimité partagée avec une personne. Ça évoluera peut-être. Et ça sera un sujet de la saison 3. Le couple exclusif versus le couple je sais pas, non exclusif, on va dire ça comme ça. Donc j'ai du mal à considérer ça. Donc moi, il faut savoir que tout ce que je vais dire s'inscrit un peu dans cette pensée où je vois pas la vie à deux. Peut-être du coup, Anna, c'est le bon moment tu pour partager quand tu t'es rendu compte, toi, de...
Oui, alors c'est ça. En fait, au bout d'un moment, donc après cette relation de 3 ans avec ce mec où j'ai beaucoup, beaucoup réfléchi aux raisons de la rupture, à comment ça avait pu se passer comme ça, bah j'ai pris conscience du coup du fait que j'ai été acquise. Et en fait, j'ai une amie très proche. Je me souviens d'être... on se voit toujours maintenant, mais en gros, je suis allée chez elle. Et elle m'a dit « Ah non, moi, avec Fabien, jamais on pète l'un devant l'autre. Jamais, quand je vais aux toilettes, je lui demande de mettre la musique parce que je veux pas qu'il entende mes bruits. » Enfin, en gros, elle m'avait dit qu'elle faisait vraiment une séparation stricte entre tous ces états fonctionnels du corps et le fait d'être avec lui. Et c'est marrant parce qu'au début, je me disais « Ouais, mais n'importe quoi, elle est folle. Comment tu veux vivre avec un mec? Il y a un moment, il sait bien que tu vas chier et c'est tout, quoi. » Enfin, et c'est marrant parce que de plus en plus, j'y ai réfléchi. Et je me suis dit, ouais, mais en fait, elle a tellement raison. Et c'est à partir de là où, en fait, quand je me suis mise dans ma relation actuelle, et ben finalement, j'ai totalement changé de manière de voir les choses. Et c'est à partir de là où j'ai mis en place tous ces trucs-là. Et bon, je suis assez d'accord avec toi, Flo, c'est qu'au bout d'un moment, effectivement, quand tu vis avec quelqu'un, bah oui, tu perds quelque chose, entre guillemets, par rapport à avant. Mais ce que tu sais pas encore, je pense, c'est que tu gagnes aussi plein de choses et qu'il y a plein de complicité, plein de trucs trop bien qui peuvent se passer uniquement quand tu vis ensemble. Et que finalement, c'est quand même hyper cool d'avoir un partenaire, quelqu'un qui est là. Mais c'est vrai qu'en termes de séduction, effectivement, je pense que ça, quel que soit si tu vis ou pas avec la personne, bah, y a un moment, tu vas devoir faire des efforts. Et ça, d'ailleurs, c'est marrant parce que cette notion d'effort, et les gens, ils n'y croient pas, ils pensent que l'amour, c'est tout beau, tout rose. Mais non, pour moi, quand t'es avec quelqu'un, quand t'es en couple, bah c'est tout le temps des efforts en fait, parce que intégrer une vie avec quelqu'un et être à deux au quotidien, bah c'est des efforts. Des fois t'as pas envie de parler, bah ton mec te parle ou lui il est à fond, bah t'as pas envie de parler et entre guillemets t'es diplomate, mais voilà tu vas pas l'envoyer chier parce que t'es de mauvaise humeur ou je sais pas moi des fois bah moi j'ai envie d'être seule, je suis quelqu'un de solitaire, bah des fois mon mec bah j'ai envie d'être seule et heureusement on a une pièce, enfin il a une pièce, un bureau donc il va dans son bureau. Et d'ailleurs, du coup, donc avec ce mec-là, bah, j'ai changé totalement ma façon de faire. Et notamment, bah, toutes les semaines, on se programme ce qu'on appelle un selfish day. Et le selfish day, en fait, c'est une soirée où chacun fait ce qu'il veut sans se soucier de l'autre. C'est-à-dire, il ne fait pas à manger pour l'autre. Et c'est limite, on pourrait même pas se parler. Bon, bien sûr, on le fait parce que voilà, on dit salut, ça va. Enfin, bon, c'était surtout avant quand on rentrait du taf, là, on télétravaille. Mais du coup, ce selfish day, bah, ça permet aussi de finalement de pouvoir passer ta soirée comme si t'étais célib. Et
c'est un super concept.
Ouais, le selfish day, ça s'appelle.
Tu peux coucher avec d'autres meufs du coup.
Non, tu peux
pas.
Ah
pardon, j'ai pas bien compris. Ah, je croyais que c'était selfish.
Chérie, ça fait 6 mois, on est d'accord que ah oups.
Non, du coup, glissé. Chacun fait ce qu'il veut de sa soirée, bon pas de infidélité bien sûr, mais chacun, mais s'il veut, il peut regarder un porno et se branler, enfin moi je m'en fous quoi en fait. Et sur rétroprojecteur en plus.
Est-ce qu'il peut chier la porte ouverte?
Non.
En ce moment,
il fait pas ce qu'il veut alors.
Est-ce qu'il peut chier en regardant un porno sur vidéo proche?
Pas devant moi en tout cas, voilà.
Quel enfer.
Mais... t'as vraiment la porte de l'enfer qui s'ouvre.
Ah ouais.
Belzébuth.
Ouais, horrible. Mais du coup non, en fait je pense on abordera aussi ce sujet peut-être après, mais non, en fait pour moi c'est plein de petits efforts au quotidien en fait, si tu veux que la flamme reste. Voilà.
Mais alors ça pardon, parce que faut que je
ouais, vas-y, mais sort, faut que ça sorte.
Ah, mais alors là, mais merci
avec un vidéo proche.
Merci beaucoup pour ce témoignage, et c'est vrai que ce côté c'est des efforts, mais moi je suis complètement d'accord. Et après une grosse rupture, j'avais reparlé à mon ex, mais enfin
Débona, tu veux dire,
Marguerite.
Enfin
Marguerite, exactement. quelques semaines peut-être après, enfin voilà. Et je me souviens d'une phrase où elle avait dit oui, mais une relation de couple, ça devrait être facile,
non,
et on devrait pas faire des efforts. Et alors, mais moi je l'ai regardé et je lui dis mais
non.
En fait, c'est OK, mais je comprends pourquoi on est plus ensemble.
En fait, je te déteste.
Non, mais si t'as pas compris que une relation de couple, c'était plus facile au début qu'à la fin, enfin et qu'il fallait travailler tous les jours bah oui, c'est évident que ça marchera pas, et ça marchera pas dans tes projets non, non. non plus. Enfin, ça, je l'ai pas dit parce que je suis genre.
Mais moi, je le vois un peu comme je fais beaucoup de sport, et je prends ma voix de beau gosse quand je dis ça. Je fais beaucoup de sport, et en fait, plus tu avances dans ta pratique, plus le millième de seconde que tu vas gagner ou la dernière répétition, elle est difficile à avoir. Bah, c'est un peu pareil dans un couple, en fait. Il faut maintenir un certain niveau, et si tu veux aller encore plus loin, ça demande encore plus d'efforts. Une autre pote m'avait dit, en fait, à force d'habiter ensemble, on s'est jamais aussi peu vu. Parce que tu t'habitues et ça avait cassé quelque chose dans le fait d'être ensemble.
Ça c'est vrai, moi ça me l'a beaucoup fait aussi quand je suis arrivé sur Paris, parce que du coup par exemple le soir après le taf on finissait pas toujours à la même heure, on voyait des potes séparément et en fait il y avait des semaines où on se voyait pas quoi. Et du coup t'as l'impression de vivre avec un inconnu et dans ces moments-là t'as tous les effets négatifs de la vie ensemble qu'on a cité avant, mais t'as pas les positifs. Et là, c'est dangereux.
Moi, je pense que pour que ton couple fonctionne, il faut que tu aies tu passes des moments de qualité. Donc, ce que j'appelle des moments de qualité, c'est pas le traîner en pyjama le soir à zapper la télé, quoi, en fait. Et pour moi, en fait, tu peux pas. Enfin, les couples finalement qui marchent le mieux, je pense, c'est quand tu partages une activité commune et que tous les deux prennent du plaisir dans cette activité et que du coup, c'est un moment de qualité que tu passes. Par exemple, avec mon mec en ce moment. Enfin, depuis quelques mois déjà, là, on fait du longboard. Donc, c'est un skate, mais plus long. Et en fait, tous les deux, on kiffe trop. Et des fois, on passe des super journées. Bon, pas en ce moment parce qu'il fait pas beau. Mais les jours où il faisait beau, bah, on partait samedi matin. On allait jusqu'au quai. On faisait du longboard ensemble. On teste quelques figures. Et au final, la journée passe et on a passé un trop bon moment. Un moment qui est intentionnel, qui est délibéré, où tous les deux, on se montre sous notre meilleur jour. Et en plus, on fait une pratique ensemble. Et du coup, ça, c'est un moment de qualité. Et là, on a l'impression de se voir. Et pas de rester, de se voir juste se croiser à l'appart ou en dormant, genre en mode bonne nuit. Mais c'est vrai que moi, j'ai déjà entendu cette histoire où les gens vivent ensemble et au final, ils se voient quasiment pas.
Mais, ouais.
Ouais, juste sur l'activité commune, c'est bien sur le papier. Après, ce qui peut arriver, moi, ça avait été le cas, c'est quand tu en as un des deux qui se lasse de l'activité et que l'autre a envie de continuer et il comprend pas pourquoi t'as perdu ton partenaire de jeu, quoi.
Oui, mais ça, c'est comme dans tout. Juste sur l'activité, moi, je suis très d'accord. Ça m'est arrivé de pratiquer des activités avec des partenaires et c'était vraiment cool. À partir du moment où ça devient un devoir, par contre, c'était très pénible. Mmh. Et moi, j'osais en parler, mais ça vexait. Enfin, bon, bah en fait, c'est comme tout. Faut que ça soit réactualisé. Hein. C'est comme le couple, en fait. Bon, bref, ça, c'est un autre sujet. Mais je trouve que tu l'as dit, c'est se montrer sous son meilleur jour. Parce qu'en fait, vous faites un truc qui vous passionne. Mm-hmm. Et le fait de vous voir passionner l'un l'autre, il s'avère que c'est la même activité, mais ça doit, je sais pas, tu dois développer un amour aussi de l'autre, de le voir sous son meilleur jour comme ça, qui doit être hyper stimulant. Et juste sur ça, même moi qui suis pas dans des relations conventionnelles de couple, en polyamour, tu peux tout à fait avoir cette routine qui fait que tu perds tu gagnes l'habitude de l'autre et tu perds l'altérité, etc. En polyamour, on pourrait croire que tout est un peu tout le temps la surprise et tout parce que t'as plusieurs partenaires. Pas du tout. Tu peux avoir un script préétabli et commencer à t'ennuyer alors même que t'as d'autres partenaires, etc. Donc ça existe. Tu vois, de se donner rendez-vous, d'avoir toujours le même script, genre on se voit, on dîne, on ken, on dort et en fait tu fais ça 14 fois et après bah tu
t'en
te lasses quoi.
Ouais,
bah
ouais. Ben, du coup, ce que t'as dit, ça m'a fait penser à quelque chose, justement, quand tu dis se montrer sous son meilleur jour. Moi, justement, ce que j'avais pas du tout dans ma relation avec mon ex, celui donc avec qui ça a duré 3 ans, c'est comme on passait tout notre temps ensemble, mais que j'ai oublié de préciser, on faisait rien. C'est-à-dire, on restait à la maison, on n'était pas très soirée, on voyageait jamais, ni rien. Ben, en fait, je trouve que, quelque part, la séduction et le désir que t'as pour l'autre, il vient aussi de... quand l'autre personne, en fait, elle est exposée aux yeux d'autres gens. Et typiquement, moi, aujourd'hui, en fait, par exemple, avec mon mec, quand on va à des soirées, ben, finalement, je le désire jamais plus que quand je vois qu'il y a d'autres meufs qui sont un peu autour de lui ou que je le vois trop beau et qu'il irradie dans une soirée. Bon, en ce moment, c'est un peu compliqué, même si j'avoue, on a fait quelques trucs un peu clandestins. Mais, oh là là, vous allez me dénoncer.
Non, je veux des adresses. Ouais, non, je vais pas te dénoncer, je veux venir.
Il y a des petits restos privés dans le 16e, apparemment.
Non, c'était pas chez Chalençon, c'était vraiment chez des potes.
Chez Orelsan, ouais, nous aussi, je connais. J'étais sur des soirées chez Orelsan.
Mais du coup, je trouve aussi que c'est hyper important finalement, d'être dans le... de voir le regard des autres sur ton partenaire et même sur toi, parce que c'est ça, quelque part, qui te donne de la valeur et c'est ça le désir, en fait. C'est aussi... C'est ça, c'est l'approbation des autres aussi qui fait que quelque chose prend de la valeur et est désirable. Alors oui, c'est horrible de parler comme ça de quelqu'un, mais en vérité, c'est des mécanismes psychologiques et on le fait tous. Et je trouve que quand tu vas à une soirée avec ton mec ou même toi et que tu te fais draguer, bah c'est là où l'autre il va être titillé, il va se dire ah ma meuf en fait déjà d'une part à une soirée t'es hyper bien sapé machin et en plus tu vois que l'autre plaît et que ah tiens bah il pourrait m'échapper.
Et c'est aussi Ouais, pardon, je te coupe.
Non, t'inquiète pas. Et c'est ce côté il pourrait m'échapper en fait, il pourrait partir, l'autre il est pas acquis, il est avec moi mais si jamais il y a quelqu'un d'autre qui vient et qu'il y a un moment où ça se passe pas bien, bah il pourrait partir et c'est ça qui donne c'est ça qui est séduisant en fait.
Enfin la désirabilité c'est très vrai en polyamour il y a ce truc j'ai l'impression qui te ramène toujours à un rôle de séduction même à l'intérieur de ton couple parce que c'est plusieurs petits couples le polyamour enfin pas petit d'ailleurs c'est plusieurs couples c'est que le fait que l'autre soit aussi en séduction avec d'autres hommes il y a un truc un peu inconscient dans ton cerveau c'est pas de la compétition mais de te dire elle peut aller ailleurs en fait si je fais pas attention à comment je me comporte avec elle va partir. On dirait que c'est un danger, mais en vrai, c'est un danger qui nous guette tous, juste quand on est en couple, et Anna, t'en as fait l'expérience, du jour au lendemain, ça peut s'arrêter, et t'as pas compris pourquoi. Et donc, du coup, dans le polyamour, ça se rappelle un peu à toi de dire, elle est pas acquise, en fait. Et si tu fais pas attention, la nouveauté de fait d'un nouvel homme va l'emporter sur toi, parce que t'auras toujours les hormones qui vont bouillir beaucoup mais c'est plus ça. D'une nouvelle rencontre.
T'as tellement un bonus quand t'es nouveau dans la vie de quelqu'un, de toute façon.
Et c'est là où tu l'emportes. C'est le bruit de son pénis qui se lève. Moi, il fait ça. Hein. Il joue de la flûte. Il siffle, là, c'est un cobra. Ah non, fais pas ça, Théo. Là, il y a ce truc où je me dis, si je veux me renouveler pour lui plaire, il faut que je sois actif. Et Anna t'en parlait, c'est des efforts. Dit comme ça, on a l'impression que c'est chiant, mais en fait, moi, je le prends comme un jeu. Quoi. C'est comment je vais la séduire aujourd'hui. Mais même en amitié, tu vois, Théo, on se verrait toujours de la même manière. Enfin, tu vois, par exemple, à un moment, on avait une routine, on se voyait que pour le podcast. On était là, c'est super cool de se voir pour le podcast, qu'à chaque fois c'est nouveau, mais en fait, on n'a pas de vie de couple, à part notre travail.
Notre couple, on a pâti à ce moment-là.
Mais oui, c'est vraiment vrai. Et ça, en amitié, on le fait inconsciemment, et jamais on dit, ah là là, une amitié, c'est un effort.
Mais alors, comment on a fait pour sortir de notre routine?
Ah bah, très bonne question, Théo. Mais en vrai, on a juste créé des moments, genre, viens, on fait n'importe quoi, on voit où ça nous mène. On a fait une soirée c'est pas bien. On a fait, maintenant que j'ai dit c'est pas bien.
Je peux...
On a fait une soirée avec Tom, qui était venu dans l'épisode sur les peines de cœur. Et on a fait un truc qu'on avait jamais fait, que j'aurais détesté faire en temps normal, c'est juste regarder Avengers et commenter le film. Moi, je suis pas ce genre de type, je déteste qu'on se foute devant la télé quand on est entre potes. Mais parce que là, c'était exceptionnel, j'ai passé une trop bonne soirée.
Après, je trouve qu'effectivement, le fait d'être en confinement en ce moment et le Covid, c'est vrai que ça, il faut se réinventer comme dit Flo, mais ça a forcément un impact, je pense, un impact sur le moral des gens et même un impact, moi je trouve, sur le désir et la libido. J'avais écrit un article l'année dernière sur le confinement et le fait que finalement, le fait d'être tout le temps dans le même environnement, au même endroit avec la même personne que tu croises H24, forcément tu peux pas lutter, t'as ton désir qui descend quoi. Et ça, je pense que c'est, encore une fois, il faut dire ce que t'as dit tout à l'heure, il faut se dire plutôt ce que t'as dit tout à l'heure, c'est que, c'est temporaire et que ça va passer et que voilà, ça, c'est une mauvaise période, quoi, entre guillemets.
Ouais, c'est beau de, enfin, moi, c'est con, mais j'ai du mal à le faire de juste accepter de dire, comme tu dis, ça va passer. Et c'est vrai que j'arrive à me le dire, mais j'arrive un peu moins à le vivre. Au quotidien, il y a bien, non mais c'est bon, il y a des jours plus clairs qui sont à venir devant. Enfin, c'est vrai en dehors du couple aussi, sur le moral au taf par exemple, toutes ces choses-là. Se dire que ça va s'améliorer en fait et que c'est passager.
Mais c'est pas tant se dire que ça va s'améliorer, parce que moi j'ai un peu du mal. Alors oui, ok, il faut une dose d'espoir, mais j'ai un peu du mal avec le concept d'espoir, parce que c'est toujours replacer ton bonheur dans un futur incertain que tu contrôles pas. Donc moi je suis pas spécialement favorable à ça. Par contre, plutôt d'adopter une posture un peu plus stoïque. Alors les stoïques, j'ai l'impression que c'est une philosophie. Les philosophie du stoïcisme, je perds mes mots. On a l'impression que c'est juste s'en foutre de tout, mais en fait, c'est pas du tout. C'est replacer le pouvoir au bon endroit, c'est-à-dire à l'intérieur de soi. Et une fois que tu reprends un peu le contrôle de ce qui dépend de toi et ce qui dépend pas de toi, franchement, la vie roule plutôt bien et le bonheur aussi. Anna, tu parlais de libido, et je voulais savoir, vous qui avez été dans des relations longues, comment... ma question est biaisée parce que j'ai une grosse angoisse vis-à-vis de la perte de la libido. Comment est-ce que vous avez abordé cette perte de libido qui peut être déjà passagère et en plus naturelle?
Alors, c'est vrai que moi, tout simplement, dans la relation avec le mec avec qui j'étais pendant 3 ans, donc Daniel.
Daniel.
Voilà, Dany.
Démoniel.
Dany Brillant.
C'est vrai qu'avec lui, très vite, de toute façon... Enfin, tous ces trucs-là, le fait de chier la porte ouverte, ne plus m'épiler, machin, bah tous ces trucs là finalement ça finit par un peu tuer la libido, mais on s'en rend même pas compte en fait, c'est insidieux, c'est-à-dire au bout d'un moment bah tu réalises que tu fais l'amour une fois par semaine et que ça devient très routinier, c'est tous les samedis après-midi en mode parce que le samedi après-midi t'as du temps et en plus bon pas très inventif quoi, vous voyez, donc missionnaire, hop hop, et voilà, en 5 minutes c'est fini. Et en fait je trouve que c'est marrant parce que sur le moment je m'en suis pas réellement rendu compte, pour moi c'était normal. Et ça l'est encore aujourd'hui parce que je pense que bien sûr au début la nouveauté bah ça fait que t'as envie de l'autre tout le temps, et en fait ça tu pourras rien y faire, c'est pareil pour tout dans la vie en fait. Tout ce qui est nouveau au début bah ça a un attrait, et dès que tu t'habitues à cette chose bah ça a moins d'attrait en fait, et c'est pareil pour moi pour tout. Et c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui se retrouvent bah à déménager tous les 6 mois parce qu'ils veulent retrouver à chaque fois cette nouveauté, et en fait tu peux pas l'empêcher, donc il faut l'accepter qu'avec un partenaire au début ça sera tout feu tout flamme, et ensuite ça sera moins enfin tu feras plus forcément l'amour 3 fois par jour.
Et sur le laisser aller, juste je fais un petit parallèle hasardeux, mais c'est juste la RATP a changé sa...
Ah oui, c'est oui. Le hasardeux.
Non mais il y a vraiment un lien. La RATP a changé sa stratégie pour la propreté de ses du métro. Avant, quand il y avait des trucs qui étaient dégradés dans le métro, ils les laissaient tels quels. Alors eux, ils savaient qu'ils avaient refait monter un ticket pour que les gens de l'entretien y aillent, mais personne des passagers, et il y en a des milliers, des millions par jour, ne pouvait le voir. Aujourd'hui, la RATP mais tout de suite un encart de nous faisons tout notre possible pour rendre cet endroit aussi propre qu'il l'était avant, et en accentuant le fait de on sait que c'est crade, on fait des efforts, ils constatent que les gens dégradent. En fait, ce qui se passait avant, c'est que l'endroit était dégradé et les gens le dégradaient encore plus parce que tu respectes pas quelque chose qui n'est pas respecté, il y a vraiment un effet d'entraînement. Alors que si tu montres que t'es en train de faire un effort pour quelque chose qui est en chantier, l'endroit est beaucoup moins et se retrouve préservé. Donc juste, c'est une caractéristique psychologique des humains. Et donc, si ça se fait dans la RATP, ça se fait dans le couple.
C'est, si t'as un peu de bedaine, tu peux l'entourer en rouge et écrire « Je fais tout mon possible pour enlever ça, très vite ».
Bah, je sais pas comment tu pourrais l'appliquer pour ça, mais oui, il y a quelque chose de... Moi, c'est comme quelqu'un qui se dévalue tout le temps. Bah, en fait, à force, par entraînement, je vais finir par pas le respecter, le dévaluer,
ouais,
quoi.
Ouais, tout à fait.
Ça, c'est... L'histoire de ma vie de me dévaluer devant mes...
Ouais, je te déteste, Théo.
Non, mais je sais. Mais je le mérite. Si ta meuf... Enfin, moi, je dis ta meuf parce que je suis un mec. Mais si ta meuf, elle prend du poids, mais qu'en fait, tu la vois rayonner, qu'elle est plus à l'aise et qu'elle prend du poids parce que en fait, elle s'est complètement délaissée de toutes ses normes, de toutes ses contraintes, et qu'en fait, elle se sent bien dans son corps et épanouie, en fait, mais ta meuf, elle va être 10 fois plus sexy qu'avant. Et même si elle a pris des kilos entre-temps, tu t'en fous. Juste parce qu'elle va s'assumer, elle va s'aimer et elle va rayonner, enfin.
Exactement.
Et je pense que c'est là où on peut aussi régler le problème, parce qu'on veut pas offenser des gens sur des corps normés, etc. Mais je pense qu'on peut régler le problème en disant que si je rencontrais quelqu'un et que 3 ans après elle s'était abêtie parce que elle a pas ouvert un livre, ou elle a pas, donc quelque chose que peut-être je les mets sur sa culture, ou et qu'en fait elle s'est abêtie et que moi ça me va pas, et ben en fait c'est le même truc que si quand on s'est rencontré elle était fit et que c'était quelque chose qui nous plaisait à nous deux, et qu'elle l'est plus et qu'elle l'est quoi.
À nous deux, tu montes du
doigt. Toi et moi,
ça me fait plaisir.
C'est nous deux, on fait un trouble.
Faut qu'on rompe parce que Théo, il aime plus ton corps.
Je pense qu'on peut régler le débat comme ça, en fait. C'est juste de quelle qualité tu veux faire preuve aussi, dans quel cadeau tu veux donner à l'autre aussi. Et tu vois, garder une certaine culture, garder une certaine force sportive.
Moi, j'avais un pote à ce sujet-là qui avait traversé une zone un petit peu de flou avec sa meuf, qui était une danseuse. En fait, quand il l'avait rencontrée, il était tombé amoureux de cette danseuse et de tout ce que ça représentait, bah, à la fois physiquement, mais aussi dans la grâce, dans le rapport à la culture. Et en fait, elle avait arrêté la danse pour une raison X et Y. Et en fait, lui, ça l'avait vachement bouleversé. Déjà parce que son corps, du coup, à elle, avait changé. Il était moins sportif, mais aussi parce que tout cette aura de la danseuse avait été brisée, elle avait plus la même façon de se mouvoir, plus le même rapport à la culture, au spectacle, à des choses qui lui parlaient beaucoup. Et il y avait eu une remise en cause dans son couple de ça, alors qu'en fait, bon, la meuf, elle avait pas pris un gramme, hein, et puis elle était déjà de base assez fine, mais juste en abandonnant une activité, en abandonnant une posture qu'elle avait de danseuse, lui, ça avait remis en cause cet amour. Donc comme quoi, cette idée de faire du chemin et d'évoluer pendant un couple, et que ça peut remettre en question l'amour que t'as pour l'autre, il est pas que sur le corps aussi, il peut être aussi sur la façon d'être. Et il y a des gens qui sont plus amoureux parce qu'en fait il y a des changements de carrière, des changements de vision, d'esprit, enfin toutes ces choses-là, ça fait partie d'un cheminement qu'on peut faire de son côté pendant un couple, mais qui sont autant de raisons d'aimer plus une personne ou de l'aimer moins aussi.
Il y a juste un truc pour reboucler là-dessus, mais c'est que, alors c'est ma vision et elle est débattable, mais on post-rationalise beaucoup l'amour, en fait, qui est une pulsion, enfin comment dire, une attirance qui est extrêmement primaire et animale. Et on se donne après des raisons d'aimer, mais en fait c'est juste des fois ça évolue et des fois ça disparaît et c'est tout quoi. On peut
Exactement.
Faire tous les efforts du monde et c'est juste ça évolue.
Et c'est marrant tout ce que tu peux mettre en avant au début pour séduire quelqu'un et en fait dans la réalité bah dès que tu l'as eu bah t'es avec lui et finalement tu te dis bah j'ai de toute façon on est ensemble donc pourquoi je me ferais chier à sortir un dimanche soir avec lui et je trouve qu'il y a un moment qui arrive et d'ailleurs c'est pour ça que pas mal de couples bah au bout d'un moment se séparent. Et ce moment, c'est le moment où en fait tu commences plus à te demander toi ce que tu veux et à être plus égoïste.
C'est pour ça que dans un couple, il y a toujours une phase où il y a des conflits et on croit que l'erreur, c'est de penser que les conflits sont forcément l'annonciation de la fin. Mais pas du tout en fait. Dans les conflits, chacun est en train de récupérer son identité propre et ce qu'on est en train de faire est très sain, c'est que chacun a 1 plus 1 et on est en train de créer le 3. On est en train de créer la zone du milieu où on va se mettre d'accord pour notre couple. Donc c'est pas spécialement une mauvaise nouvelle que de s'engueuler ou que de se confronter à un peu d'altérité de la part
oui,
de l'autre.
Et puis il y a ce truc un peu tacite où on le sait qu'au début des relations on enjolive un peu le truc, je trouve. Maintenant surtout avec on reboucle sur les applis de rencontre, mais on le sait maintenant qu'on met un petit peu de vernis au début des relations et c'est normal.
Et en fait avec Daniel, il y avait jamais de conflit parce que j'avais tellement peur du conflit, moi je ne voulais pas de conflit, je préférais m'écraser et accepter ce que lui voulait, mais finalement je me rends compte que j'étais pas vraiment moi-même avec lui. Et d'ailleurs ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est le fait d'être seule. Après j'ai passé bien de 2000 donc ça s'est passé en 2014. Et franchement, j'ai eu des petites relations des petits trucs de 2 mois, des trucs de merde quoi, on va dire. Mais ensuite, je me suis remise en couple seulement en 2018. Et j'ai passé tout ce temps seule pour en fait savoir finalement qui je suis, qui j'étais vraiment et qu'est-ce que j'aimais et quelles étaient mes limites en couple. Et en couple, ça, par exemple, ça c'est fini, je le ferai plus pour faire plaisir à l'autre ou pour le séduire. Et ça par contre, tu peux mettre un peu de vernis parce qu'il y a un moment, t'es obligé de faire des efforts quand t'es avec quelqu'un, comme on disait. Tout ne peut pas rouler comme ça quand t'es en couple. Donc ces trucs-là, ok pour faire des efforts. Donc c'est notamment tous les trucs de séduction. J'essaye aussi d'être toujours présentable, mais c'est aussi par rapport à moi-même. Moi, j'aime bien me sentir bien, même quand je porte pas de maquillage, j'aime bien me sentir quand même jolie. Et du coup, je vais jamais faire le truc de « Ah, j'ai laissé mes cheveux gras pendant 15 jours, tant pis, mon mec, de toute façon, maintenant, il me connaît. » Je vais jamais faire ces trucs-là, en fait. Je veux toujours être jolie et désirable, en fait. Même si je suis en jogging ou en yoga pants, je veux être quand même jolie et désirable. Et j'ai pas l'impression pourtant que ça me prenne un temps fou. C'est juste, il y a des trucs que j'ai laissé tomber, genre le vernis, j'en mets plus parce que ça me saoule. Ou mettre un string, j'en mets plus parce que ça me saoule aussi. Je trouve ça horrible, ce sous-vêtement, c'est une torture pour femme. Mais je trouve que t'as d'autres moyens juste de toi te sentir belle et bien. Et en plus que ton mec te trouve belle et désirable, sans faire des efforts faramineux. Et en plus, ces efforts-là, je les lui demande aussi à lui.
Et le côté, Anna, tu l'avais dit, le côté insidieux, le fait de pas se rendre compte, ça peut être bien aussi des fois de prendre un petit pas de recul, d'analyser, de voir et se dire... Est-ce que là où on en est aujourd'hui par rapport à là où on s'était engagé, c'est dans le bon sens? Et sinon, il faut en parler, c'est pas dramatique, mais de se dire, d'avoir des idées claires sur ce qu'on veut atteindre ensemble, quoi.
Tout à fait.
Se dire que la séduction ne concerne pas le couple, c'est se voiler la face complètement. Et je retiendrai ce côté, ne pas s'oublier soi-même, ça veut pas pour autant dire ne pas faire des efforts pour l'autre.
Tout à fait. En tout cas, Anna, merci beaucoup. C'était trop cool d'enregistrer avec toi. Et comme quoi, sur des petits sujets de niche, comme quoi, sur des petits sujets comme ça, on a beaucoup à dire. Donc, attardez-vous aux détails parce qu'ils sont bien plus significatifs que ce qu'on a l'impression.
Et profitez des petites choses.
J'ai oublié de parler d'un truc, je suis dégoûtée. Tu veux dire quoi?
Ça peut être un teasing pour le prochain.
Je vais le dire en une phrase, c'est ne sous-estimez pas le manque. C'est très important dans le désir. Donc, de se manquer l'un à l'autre. Donc, de pas passer tout son temps avec l'autre. De se faire des week-ends solo ou avec ses copines. De retrouver l'autre. Voilà, c'était ma phrase de fin. Ne sous-estimez pas le manque.
Je pense qu'on devrait garder un argument fort comme ça pour la fin. Pour... Voilà. Moi, je trouve que c'est une très très belle conclusion.
Non, et puis c'est très vrai ce point sur le manque. Mais du coup, je vais pas renchérir.
Merci Anna, merci Théo.
Merci Flo, merci Anna.
Merci à vous.
Et on fait dans les...
Merci.
On fait des triangles jusqu'à ce que...
De rien, de rien.
Voilà. Et merci les applaudisseurs. On vous applaudit avec le cœur.
Et on vous fait des gros bisous.
Ah, tiens, c'était presque un chip.
Merci d'avoir écouté cet épisode.
On y était presque. Pour manifester votre soutien, on vous invite à nous suivre sur Instagram, ça compte beaucoup pour nous.
De la même façon, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, notamment sur Spotify, iTunes et Deezer. Et sur iTunes, vous pouvez nous mettre 5 étoiles, ça nous aide à remonter et c'est vraiment un méga coup de pouce.
Merci beaucoup, à la prochaine.
Bisous.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.